Le patron de l'armée des ombres. Un documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisé par Clotilde Pivin. Second épisode, le philosophe combattant.
Quelque chose que je trouve très cohérent, que ce soit dans sa vie du coup d'engagement dans la résistance ou dans sa vie d'intellectuel, c'est ce côté d'homme de terrain. Il va beaucoup sur le terrain, que ce soit du coup pour des actes de résistance ou que ce soit pour faire des entretiens avec des philosophes, avec des mathématiciens. Et même tout son travail d'épistémologie, des mathématiques, est une étude de terrain, en fait, de la science mathématique en train de se faire.
Jean-Claude Vaillaz va fonder un réseau.
Oui, alors c'est une mission qui lui est confiée par l'intermédiaire de Christian Pinault, qui est quand même le premier chef de la résistance, du mouvement de résistance à être allé voir le général de Gaulle.
Alia Aglan.
Il va rentrer avec une mission de créer un réseau. C'est le réseau Phalanx, et il y a une branche Phalanx en zone nord, qui va être confiée à Cavaillès, et une branche Phalanx en zone sud, qui va être celle de Christian Pinault. Mais alors les deux s'entendent pas si bien. Et Cavaillès va déjà prendre le large et va fonder un réseau indépendant de Libération Nord. Oui. Phalanx, zone occupée, oui, devient le réseau Cohorse, qui est fondé par Jean Cavaillès, avec des amis, plusieurs cercles d'amis, sa famille. Et donc, c'est quelque chose qui va devenir indépendant et qui va suivre le cours d'une autre histoire. Parce que Cohorse, au départ, c'est un réseau de renseignement militaire et économique. Et début 1943, Jean Cavaillès part lui aussi à Londres. Alors c'est vrai qu'entre-temps, ils ont été arrêtés avec Pinault sur une plage de Narbonne. Ils ont été internés, ils se sont évadés. Et de toute façon, à partir de ce moment-là, il est révoqué de l'enseignement. Jean Cavaillès, il est complètement clandestin à partir de fin décembre 1942.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Il part à Londres. Et là, à Londres, entre février et avril 1943, bon, certains périmètres vont être déterminés. D'autant qu'à Londres, on demande à Jean Cavaillès de devenir le chef de Libération Nord. Donc, à part ça, Cohorse va devenir complètement indépendant.
Il voit De Gaulle.
Oui, il va rencontrer De Gaulle, bien sûr. Et alors, à partir de ce séjour à Londres, on voit comment Jean Cavaillès va suivre une voie qui n'était pas du tout évidente. Parce que dans ce qu'il va rencontrer à Londres, eh bien, il y a, je dirais, les cadres de la résistance. Et donc il en fait partie, c'est-à-dire c'est une sorte de résistance qu'il intègre par le haut. Mais à son retour de Londres, il va choisir de laisser justement cette action syndicaliste qu'il trouve peu pragmatique, peu en lien avec la guerre elle-même, et lui va vraiment se réorienter vers l'action immédiate.
Alors, on sait qu'à l'occasion de son voyage à Londres, puisque Jean Cavaillès a fait un voyage à Londres...
Vladimir Trouplin.
Entre février et la mi-avril 1943, avant de repartir dans la dernière mission qui lui sera fatale, il a effectivement rencontré le général de Gaulle. Très difficile de savoir ce qu'ils ont pu se dire, parce que naturellement tout ça a été sous le sceau du secret. Jean Cavaillès était un agent de la France libre, chef de réseau, et il n'y avait pas de témoins et pas d'enregistrement de ses entretiens. Mais si l'on en juge par une des lettres posthumes, écrites, enfin posthumes après la mort de Jean Cavaillès, bien sûr, écrites par le général de Gaulle à la sœur de Jean Cavaillès, à Gabrielle Ferrière, on sent qu'il y a, chez le général de Gaulle, un souvenir ému de cette rencontre à Londres et une certaine émotion et un grand respect pour la personnalité de Jean Cavaillès.
Mais je peux citer une anecdote ici qui m'a beaucoup frappé. Moi, j'ai participé à l'inauguration de la salle Jean Cavaillès au lycée d'Amiens.
Frédéric Worms.
Où j'avais fait un exposé, d'ailleurs inspiré d'une phrase de Canguilhem qu'on cite moins que d'autres dans ses hommages. Il a une phrase extraordinaire qui dit, à propos de Jean Cavaillès, « Il a donné sa morale sans avoir à la rédiger. » C'est-à-dire, il a donné sa morale par ses actes. Il n'a jamais écrit de philosophie morale,
pas
sous-entendu aussi, contrairement à d'autres qui écrivent de morale sans la réaliser. Lui, il a donné sa morale sans avoir à la rédiger. Bon. Et il y avait un monsieur extraordinaire qui s'appelait Pierre-Yves Canut, qui était extraordinaire parce qu'il a été frappé par Cavaillès d'abord en tant qu'enseignant de philosophie, en fait. Il était au lycée d'Amiens, justement, où Cavaillès a enseigné brièvement. Et il était fasciné par son professeur de philosophie. Bon. Puis après, il quitte la terminale, il fait je sais pas quoi, je crois des études de droit peut-être. Et il s'engage dans la résistance, et dans un réseau très avec des pertes, des gens qui sont dénoncés, des règles de sécurité. Voilà. Et un jour, on lui dit, faut que le chef du réseau va venir, il faut lui transmettre tel ou tel papier. Et il voit arriver le grand chef du réseau qui regarde, qui est surveillé par il y a deux personnes postées devant le café, parce que pour savoir, les Gestapo arrivent. Et le chef du réseau, c'était son prof de philo, c'était Cavaillès.
Est-ce que vous avez des témoignages de désaccords entre lui et d'autres et son entourage sur la façon dont il agit, dont il conçoit l'action?
Il y a des désaccords au sein du comité directeur de Libération Nord. Ce n'est pas seulement des rivalités personnelles, c'est vraiment une conception du temps. Et pour Jean Cavaillès, il faut gagner la liberté avant d'aménager la liberté. Il devient activiste. Il trouve que le temps de la propagande, de la prospective, qui était celle du journal clandestin, n'est plus le temps de la guerre. Et il est vrai qu'à partir de 1942, il y a quand même une accélération. Il y a cette tentative de débarquement à Dieppe qui va échouer, mais qui est quand même un signe qu'on a dans le débarquement. Il y a le débarquement réussi en Afrique du Nord. Donc d'une certaine manière, ça échauffe les esprits. Mais l'action immédiate était au programme de la France libre, hein. C'est pas Cavaillès tout seul. Et donc, à partir de 1943, on attend un débarquement en France et les troupes de la résistance veulent s'entraîner d'une certaine manière à rester actifs et sans doute l'action syndicaliste lui paraît un peu plus passive.
Monsieur de Saint-Michel-d'Uneza, vous avez été pendant la guerre l'un des plus proches agents de liaison de Jean Cavaillès. Voulez-vous évoquer un souvenir de cette époque?
C'était vraiment une épopée pour nous de suivre cet homme-là. Également, une fois, je me souviens, il avait appris, après l'arrestation d'un ami qui n'était pas tout à fait du réseau, mais qui faisait de l'action. C'était assez tôt, en 1943. Et il avait appris que cet ami avait, après son arrestation, avait des grenades et des explosifs dans son appartement. C'était rue Alphonse XIII, je me rappellerai toujours. Coup de téléphone, rendez-vous, j'y vais. Et il me dit, suivez-moi, je vous expliquerai. Et en cours de route, il me dit, voilà, un tel a été arrêté. Et depuis 24 heures, la Gestapo a peut-être son adresse en main. Il a des grenades, des explosifs chez lui. Il ne faut pas les laisser, il faut aller les chercher. Je vais y aller. Et non, c'est pas une mission du réseau, c'est une mission à moi. Je prends le risque, j'irai les chercher, vous m'accompagnez assez loin, 50 mètres derrière. Pendant que je serai dans l'appartement, vous vous rapprocherez. Quand je sortirai, je vous donne le paquet pour le mettre à la cache. Et c'est ce qu'il a fait. C'est là sa sollicitude constante envers nous, c'était extraordinaire.
Il a fait l'action qui lui paraissait la plus urgente. Il le dit toujours, hein. Il y a une urgence. Dans les messages qu'il envoie à Londres, il demande des explosifs. C'est quelqu'un qui devient boulimique d'action et qui va prendre des risques assez insensés parce que quand il sait qu'il est repéré et qu'il est sans doute traqué, il ne s'arrête pas. Il préfère envoyer Claire Lejeune, Arlette, qui est à la fois sa secrétaire dans le réseau, mais qui est visiblement son amie de cœur, elle, il l'envoie à Londres. Il l'envoie à Londres le 22 août. Et lui, il est arrêté le 28 août. Oui. Il refuse absolument toutes les perches qu'on lui avait tendues, soit de retourner à Londres, soit de se mettre au vert. Oui. Parce qu'en réalité, quand le danger est là, c'est toujours la convergence de plusieurs actions de services. Les services du contre-espionnage allemand sont extrêmement offensifs, surtout en 1943. Ils ont des indicateurs, ils ont des gens qui retournent, ils ont des parce qu'ils les payent extrêmement bien. Et donc, le réseau Cohors s'est infiltré et d'une certaine manière, sa chute, la chute de Cohors, c'est la conséquence de la chute d'autres réseaux. Parce que comme les clandestins ne sont pas assez nombreux, les radios ne sont pas assez nombreux, la durée de vie des agents n'est pas si longue. Il y a des espèces de mutualisation et la mutualisation notamment pour les transmissions. Et donc, quand la centrale Coligny tombe, c'est celle qui est attachée à la confrérie Notre-Dame hein, de Rémy. Eh bien, la centrale de Corse étant dans le même immeuble de la rue Chardon-Lagache, ça fait, vous voyez, des catastrophes en série.
Monsieur Maurice Schumann, quand avez-vous rencontré pour la première fois Jean Cavaillès ?
Je crois que ça devait être pendant l'oral du concours de l'école normale en 1931. Il était caïman de l'école normale supérieure, comme vous le savez. Cavaillès a été l'ouvrier de son destin. Il a sacrifié ce qu'il savait être son génie, le mot n'est pas trop fort, à ce qu'il savait être son devoir.
Et quels sont les souvenirs que vous conservez de lui ?
Je dois dire que le souvenir le plus émouvant, c'est la rencontre londonienne. Je l'ai rencontré à Londres avec Simone Veil, qui voulait désespérément partir en mission pour la France, et que Cavaillès s'est acharné à dissuader de ce dessein généreux. Et puis la pauvre Simone, très peu de temps après, est morte. Et lorsque je suis arrivé à mon tour en mission en France, dans la nuit qui a précédé le débarquement, la nuit du 5 au 6 juin 1944, je dois dire que je pensais à Cavaillès plus peut-être qu'à aucun autre. Naturellement, j'ignorais à ce moment-là que je ne le reverrais jamais, mais je sais que si le débarquement a réussi, c'est parce que des hommes comme lui ont consacré ce qu'ils savaient être leur vie, car il avait en réalité peu d'espoir de s'en tirer, à la victoire. Cet intellectuel était au premier chef un homme d'action et d'organisation, comme il nous manque.
Est-ce que, monsieur le ministre, vous auriez quelques souvenirs intimes de Jean Cavaillès ?
Je n'ai pas de souvenirs intimes de Jean Cavaillès, car la caractéristique essentielle de Jean Cavaillès, c'était la pudeur.
Alors, donc, Simone Veil est une philosophe, elle aussi, fondamentale de la période. Elle est morte en 43 à Londres, enfin près de Londres, à Ashford, sans avoir pu vraiment s'engager dans la résistance. Et le moment bouleversant où Simone Veil rencontre Jean Cavaillès, c'est justement à Londres, où elle cherche à s'engager, en fait, concrètement. Et elle cherche à Londres à s'engager dans la résistance. Elle a un projet un peu fou en apparence, mais qui correspond parfaitement à sa conviction philosophique, qu'elle explique très bien dans L'Enracinement, le grand texte posthume. Consisterait à parachuter des infirmières derrière les lignes de la résistance et des combats en guerre pendant la guerre, au fond pour incarner ce qu'elle pense, c'est que la résistance ne doit pas se faire seulement pour des motifs nationaux, mais pour des motifs de justice. Et que si on le fait juste pour des motifs nationaux, on risque de soi-même de reconduire les injustices. Elle a un grand texte pendant la guerre qui s'appelle « Luttons-nous pour la justice » et qui dit aux Français « Ben voilà, vous êtes au fond, vous vous révoltez parce que vous êtes colonisés par un empire, mais vous-même, vous faites la même chose. » À l'époque, on disait en Indochine, par exemple. Et elle dit « Voilà, si vous vous révoltez, faites-le pour tout le monde. » Et donc, elle va voir Jean Cavaillès, qui est un grand patron de la résistance. Il y a aussi Maurice Schumann, qui raconte cette anecdote, et puis Canguilhem, encore lui, qui est fondamental dans tout ça, hein, Georges Canguilhem reprend l'anecdote. Elle va voir Cavaillès, et Cavaillès refuse l'engagement de Simone Veil, et il dit à Maurice Schumann, c'est une figure exceptionnelle, mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour... C'est un cas exceptionnel, mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les cas. Je crois même qu'il dit, il n'y a plus de place pour les cas, tout court. Ou il n'y a plus de place pour l'exceptionnel. Pour moi, c'est fondamental parce que ce sont les deux grands philosophes de la nécessité, dans ce moment philosophique de la liberté. Et voilà, il y en a une qui veut s'engager et l'autre lui, enfin il y a une sorte de l'autre lui répond, bah non, voilà, là, il n'y a plus de place pour quelque chose qui déborde de la nécessité. D'abord, la programmation de la résistance, la programmation militaire. On n'a pas l'argent pour envoyer des convois. Vous allez toutes mourir. C'est un sacrifice inutile. Et donc, il lui dit, au nom de la nécessité militaire, je vous refuse, au fond, ce geste qui visait à démontrer les causes universelles de l'engagement de la France libre. Donc, c'est un dialogue au sommet. C'est un dialogue déchirant. Moi, je peux pas en parler sans émotion, en fait.
Vladimir Trouplin, vous êtes historien, conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. Nous sommes dans le musée, dans l'enceinte des Invalides. En quelle année Jean Cavaillès a été fait compagnon de la Libération ?
Oui, Jean Cavaillès a été fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle par un décret du 20 novembre 1944, à un moment où on ne savait pas exactement ce qu'il était advenu de lui. Un certain nombre de compagnons de la Libération qui ont très bien connu Jean Cavaillès n'ont pas survécu non plus à la guerre. Je pense par exemple à son camarade, son condisciple de Normale Sup, mais plus jeune que lui, qui s'appelle Jean Gosset, qui était son adjoint d'enceinte du réseau Cohors et en particulier chargé de ce qu'on appelait l'action immédiate. Jean Gosset, qui était très proche de Jean Cavaillès, qu'il considérait comme un maître, n'a pas survécu à la guerre. Des gens comme Christian Pinault, chef du réseau, d'abord chef de Libération Nord et puis ensuite un des patrons du réseau Cohors et Phalanx, a témoigné aussi sur Jean Cavaillès.
Combien y a-t-il de compagnons de la Libération, Vladimir Trouplin ?
Alors, il y a eu au total 1038 compagnons de la Libération, hommes et femmes, très peu de femmes. On n'a pas trop le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a 6 femmes seulement. Mais il y a également des collectivités civiles. Il y a 5 communes françaises qui, globalement, collectivement, ont été faits compagnons de la Libération. Il y a 18 unités militaire. Ce qu'il faut dire, c'est que cet ordre écrit en novembre 1940 à Brazzaville par le général de Gaulle, à la fois pour encourager et récompenser les gens pas vraiment nombreux qui à ce moment-là sont derrière lui, mais aussi pour asseoir sa légitimité dans le cadre de la création de ce qu'on pourrait appeler un embryon d'État, de cette France libre, qui veut remplacer un État français que le général de Gaulle considère illégitime, et illégitime notamment parce qu'il a aboli la République alors qu'il n'en avait pas les moyens, il n'en avait pas le droit juridique. Et donc parmi la création d'un journal officiel, de timbres, d'une monnaie de la France libre, etc., de Gaulle décide de créer un ordre. Seul un chef d'État, sous tous les régimes, la monarchie, l'Empire, la République, seul un chef d'État peut créer un ordre. Ça pouvait paraître un peu baroque en novembre 1940, mais finalement, cette Croix de la Libération et ses compagnons de la Libération, c'est un peu l'équivalent de la Légion d'honneur de la France libre et de la France combattante.
Il est arrêté le 28 août 1943 à Paris, avenue de l'Observatoire, en même temps que sa sœur, Gabrielle, en même temps que son beau-frère. Ils sont conduits à Fresnes. Le 14 janvier 1944, il ira à Compiègne.
Oui, il est à Compiègne.
Retour à Paris le 21 janvier 1944 pour un, ce qu'il s'appelle, la formule est un supplément d'information.
Oui. Il est à Compiègne, qui est le camp de transit vers la déportation. En général, les résistants politiques, on les envoie à Buchenwald. Pinault sera envoyé à Buchenwald. Et j'ai vérifié, son nom est inscrit dans le convoi qui doit partir le 22 janvier 1944. Et en réalité, la veille, on vient le chercher pour complément d'instruction. Et là, d'une certaine manière, il disparaît un peu de nos archives, mais vraisemblablement, il est identifié pour d'autres affaires, et des affaires de sabotage. Alors ça, les Allemands ne rigolent absolument pas avec le sabotage, c'est vraiment, surtout en 1944, toute personne prise pour avoir fait des actes de sabotage est immédiatement exécutée. Et donc là, il disparaît des radars, et je pense que comme il a eu une activité multiforme, et exponentielle en forme de sabotage non seulement la base sous-marine de Saint-Nazaire, mais qu'il était aussi en lien avec les jeunes de l'OCM, l'organisation civile et militaire, dans le Nord, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est sans doute interrogé assez longuement entre janvier et avril 1944, et exécuté et enterré dans une fosse commune avec des résistants de l'organisation civile et militaire. Et on a été induit en erreur par une date que l'on trouvait, le 17 février, et il semble que ce serait plutôt une exécution de début avril. Oui, mais vous voyez, là, il y a une sorte de
blanc.
Blanc, mais qui laisse à penser qu'il aurait été tenu au secret et sans doute torturé.
Oui.
Pouvez-vous me dire si vous avez un souvenir de son arrestation ici au 34 avenue de l'Observatoire ?
Gabriel Ferrière.
Mon frère habitait cet immeuble au moment de son arrestation. Il a été suivi alors qu'il sortait de sa maison et rattrapé dans le petit Luxembourg. À ce moment même, nous venions sonner à sa porte. Son appartement était organisé en souricière et nous avons fait accueillir par un Allemand, revolver à la main. Nous avons été arrêtés naturellement et nous l'avons retrouvé à l'hôtel Quéret. C'est un souvenir, je me souviendrai de cette nuit où il a été torturé dans une pièce au-dessus de ma tête pendant toute la nuit. Et puis notre départ dans la même voiture pour Fresnes au petit matin.
Voilà, il est identifié assez tardivement en 1945 par sa sœur, Gabrielle Ferrière. Et ensuite, oui, il va être inhumé dans la crypte de la Sorbonne. Bon, on a déjà fait des cérémonies d'hommage à Jean Cavaillès et aux autres étudiants et professeurs résistants de la Sorbonne. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on le cherche et tout le monde intervient. Jérôme Carcopino, le directeur de l'ENS, Marcel Déa, qui n'avait pas du tout suivi la même ligne que lui, intervient, c'est marqué dans son journal, en janvier-février 1944, on essaye de le faire libérer. Mais je crois aussi que c'est quelqu'un dont les contemporains ont considéré qu'il était exceptionnel, précieux, que c'était un intellectuel de très haut niveau. Et c'est ce qui ressort dans des archives que j'ai trouvées au Vatican, tout à fait par hasard. Je suis tombée dans les fonds de secours des archives du Vatican sur une lettre de novembre 1944, je crois que c'est 1er novembre 1944, du capitaine Maurice Schumann, qui écrit au représentant du général de Gaulle auprès du Vatican pour lui dire de faire des recherches sur Jean Cavaillès, qui serait déporté en Allemagne. Tout le monde le croit déporté en Allemagne, donc tout le monde intervient pour le faire soit libérer. Et Schumann dit, mais est-ce qu'on pourrait l'échanger, ou est-ce qu'au moins on pourrait savoir où il est pour amoindrir son sort? Et donc, ce que l'on sait, c'est qu'en novembre 1944, Schumann sait que Cavaillès, ou croit savoir que Cavaillès a été condamné à mort par les Allemands, mais n'a pas été exécuté. Donc en fait, on le cherche absolument partout. Et dans les archives de la Croix-Rouge, à Genève, je suis encore tombée sur une carte qui date cette fois-ci du début 1945, où c'est l'ordonnance du général de Gaulle qui fait faire des recherches. Donc en fait, De Gaulle le fait rechercher dès la libération. On est à la recherche de Jean Cavaillès.
Aujourd'hui, Pierre Kasounoguès, c'est davantage le héros résistant dont on fait l'éloge en Cavaillès que le philosophe ?
Non, alors je pense pas du tout. C'est-à-dire, je pense qu'au contraire, il y a eu une époque dans laquelle il était finalement difficile de discuter de la philosophie de Cavaillès à cause de l'héroïsme auquel, d'après Canguilhem, elle aurait abouti. Et effectivement, une philosophie qui a pour conséquence un geste héroïque, comment la critiquer? Comment la mettre en question? C'était pas possible. Et je pense que cette idée, hein, elle a rendu difficile l'étude des textes de Cavaillès pendant très longtemps. Et je pense que pour moi, ça s'est défait autour des années 90 avec quelqu'un comme Maurya Sinasser, par exemple. D'une certaine façon, je pense que pour vraiment étudier les textes de Cavaillès, il ne faudrait pas parler du fait qu'il a été résistant. Et que c'est un compliment très ambigu au Cavaillès philosophe que de dire « lisez les textes de Cavaillès parce qu'il a été résistant ». Est-ce qu'il n'y a pas des raisons intrinsèques de le lire ? Voilà, une époque, j'avais l'idée de faire une espèce de biographie croisée de Cavaillès et d'André Weil. Donc André Weil, c'est le frère de Simone Weil. C'est un très grand mathématicien qui connaissait Cavaillès, hein, qui faisait partie du groupe Bourbaki. Ils étaient ensemble à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm. Et André Weil, lui, fait de la prison parce qu'il refuse de porter les armes. Et donc il est dans un pacifisme radical. Et il est, dans le récit biographique rétrospectif, il est obligé de quitter la France après-guerre à cause de ce pacifisme. Et donc à la fois on a quelqu'un de très proche de Cavaillès, hein, dans le contexte, l'intérêt pour les mathématiques, le milieu, et en même temps qui a une position radicalement différente. Est-elle moins courageuse ? Est-elle moins courageuse ?
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre!
C'était le patron de l'armée des ombres, le philosophe combattant. Merci à Pierre Cassou-Noguez, philosophe, Louise Gary et Victor Popa, étudiants à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, Véronique Bourlon de Rouvre, enseignante, Alia Aglan, historienne, Frédéric Worms, philosophe et directeur de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, et Vladimir Trouplin, historien et conservateur du Musée de l'Ordre de la Libération. Mixage, Pierre Henry. Prise de son, Timothée Hubert, Tahar Boutlifa, Andreas Jaffré et Yvan Turc. Archivina, Marie Chauveau. Attaché de production, Sylvia Favre. Un documentaire de Virginie Bloch-Lenné réalisé par Clotilde Pivin. Coordination, Christine Bernard. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'application Radio France.